Allô tout le monde, bienvenue à Solidaire, le podcast. Amélie Glaude au micro, encore une fois cette semaine. Mais je suis tellement contente parce que je suis accompagnée de Samy Della et ma fabuleuse Eliane Schofield. Salut vous deux!
Salut Amélie!
Hey, on fait un podcast à trois, puis on n'interviewe pas Samy. C'est génial, je capote. Vraiment, c'est notre première fois! Trop cool! Donc, cette semaine, ouais. On vous parle de syndicalisme de au sud de nous, hein, aux États-Unis, avec le professeur adjoint Barry Edlin à McGill. Lui, il enseigne à McGill et il... je dis n'importe quoi. Je vais recommencer, OK? Je fais ça vite, Eliane.
Si tu veux.
C'était bon.
Ben non, oh mon Dieu, hey, si j'ai... Non, là, Amélie, si j'ai 10 minutes de retard, mon équipe, hey, on va se calmer, là, elle va prendre son gaz égal, là, puis on va prendre le temps.
Je recommence,
Stresse-toi pas, là.
Non. Allô tout le monde, bienvenue à Solidaire, le podcast, Amélie Glaude avec vous au micro. Cette semaine, je suis vraiment contente, je suis en compagnie de Samy Della et ma fabuleuse Eliane Schofield. Salut vous deux!
Salut Amélie!
Hey, comment vous allez aujourd'hui?
Très bien, surtout qu'on va avoir un super invité que tu vas nous présenter.
Tellement.
Oui, vraiment. Je suis rassasiée intellectuellement après cet épisode-là. C'est hyper intéressant. C'est comme mon jogging intellectuel de la semaine est faite, là.
Tellement. Aujourd'hui, on vous parle de syndicalisme à l'américaine avec le professeur adjoint Barry Edlin, je ne veux pas me tromper, il l'a dit en plus comment prononcer son nom.
Je pense qu'on va comprendre. Edlin,
soyez indulgents avec mon anglais, s'il vous plaît. Donc, Barry, hein, on va l'appeler comme ça, nous a parlé de sujets vraiment intéressants. On a parlé de Amazon, entre autres, de ce qui se passe en ce moment, le processus de syndicalisation chez Amazon et bien plus. Comment vous avez trouvé ça?
Absolument. Ben, tu sais, lui, dans la vie, il est spécialisé en analyse des classes. Tu sais, comme le sujet de la classe ouvrière qui lutte pour s'émanciper et vivre dignement, là. Mm-hmm. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'il nous parle de l'analyse des classes avec les lunettes américaines, tu sais, avec le point de vue américain, la loi américaine, le syndicalisme aux États-Unis. Donc, c'est hyper intéressant. Puis en plus, Samy, ben, étant un gars du privé, il s'est gâté, puis il a eu du plaisir.
Écoute, on aurait pu parler avec lui littéralement pendant une semaine. Mais ce qui est important, c'est qu'il nous a fait passer du cynisme à l'espoir, tout ça en une très belle petite heure.
Absolument. Bon, super intéressant. Parce qu'on commence en disant que ça va mal à la chute, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, là. Ça va mal à la chute aux États-Unis, le syndicalisme. On explique un peu les différences entre le Canada et les États-Unis. Puis après ça, ben, on va vers l'espoir. Donc, l'épisode va de vers l'infini et plus loin encore vers l'espoir. Donc, non, mais c'est vrai que ça remonte le moral parce qu'au début, ça a commencé un peu ouf, nos pauvres voisins. Donc, ben, on espère que vous allez autant apprécier le contenu que nous.
Oui, vraiment. Puis on vous invite aussi à aller sur notre page Facebook, facebook.com/solidaire.podcast, à nous mettre un petit pouce en l'air et à partager surtout les épisodes. Je vous le dis à chaque semaine, mais c'est vrai, on aime ça voir que nos épisodes voyagent à travers vos réseaux. Ça nous donne un petit peu plus de visibilité et pourquoi pas, ça nous donne l'occasion aussi de rencontrer d'autres personnes qu'on pensait pas, peut-être. J'en profite aussi pour vous dire de vous inviter à Solidaire, le podcast. Pourquoi pas? On veut vous parler, on veut vous entendre. Donc, puis lancez-nous vos sujets. Tiens, on fait plein d'invitations cette semaine. Donc, sur ce, on vous souhaite une bonne écoute.
Bonne écoute.
Hey, bonjour Samy et Eliane.
Hello! Bonjour.
On est en compagnie de Barry Edlin. Bonjour!
Bonjour, Amélie.
Merci tout d'abord, Barry, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On est vraiment choyé que tu sois là. C'est vraiment tout à notre honneur.
Et moi aussi, ravi d'être ici.
Il faut le dire quand même parce qu'on est rendu un podcast Jet Set. Donc, on est avec un invité en direct de LA. Alors, oui. Ça va
rien
nous donner...
de moins.
Rien de moins.
Tellement glamoureuse, n'est-ce pas?
Ah oui, de la grande visite.
Internationale, donc voilà. Vous serez les premiers à l'apprendre.
Je vois l'enseigne de Hollywood à travers la fenêtre.
C'est génial. Barry, pour le bénéfice de nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu peux te présenter à nous, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et tout ça?
Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Barry Adlin. Je suis professeur adjoint de sociologie à l'Université McGill, alors à Montréal, bien que je suis actuellement à Los Angeles. Et mes recherches portent sur l'analyse de classe et de pouvoir syndical dans un contexte nord-américain, alors surtout la comparaison entre les mouvements syndicalistes aux États-Unis et au Canada. Et j'ai publié un livre à ce titre, en 2018, ça s'appelle en anglais Labor and the Class Idea in the United States and Canada. Alors, ça s'appelle le travail, l'idée de classe aux États-Unis et au Canada. Et ça traite la question pourquoi est-ce que le mouvement syndical canadien, en gros, est plus fort qu'ici aux États-Unis. Les taux de syndicalisation sont à peu près le triple au Canada par rapport aux États-Unis, mais il y a eu une évolution à travers le 20e siècle où les deux mouvements étaient assez pareils à ce niveau-là, mais il y a eu un écart qui s'est produit à partir des années 60, disons. Et puis l'écart a grandi à travers les années, et puis maintenant le taux au Canada aux environs de la trentaine de pourcents, et tandis qu'ici, c'est 10%.
C'est incroyable comme parcours, parce que je pense qu'on a beaucoup de méconnaissances par rapport au milieu syndical des États-Unis, qui sont quand même nos voisins. Là. Je veux dire, c'est quand même pas le mouvement syndical, sud-asiatique. Là. C'est pas... Donc, dans le fond, par quoi on commence quand on veut présenter les différences? Parce qu'on s'imagine pourtant qu'ils sont à côté, puis que ça doit être autant progressif, puis que tout devrait bien aller dans le meilleur des mondes. Donc, c'est quoi? C'est comment ça se fait? C'est quoi les plus grosses différences entre les États-Unis puis le Canada au niveau de la syndicalisation?
Oui. Alors, il y en a beaucoup, enfin, il y a beaucoup de similarités, mais il y a des petites différences qui ont des grandes conséquences, disons. C'est ça qu'il faut faire. Alors, effectivement, comme vous le savez bien, dû à vos propres syndicats, enfin, pas la SCFP, mais c'est parmi les seuls pays au monde, le Canada, où les travailleurs sont membres des syndicats qui ont leur QH autre part dans un autre pays. Mm-hmm. Il y a des syndicats, les syndicats américains qui ont des membres au Canada. Alors il y a beaucoup de similarités à ce titre-là, et puis beaucoup de sociétés évidemment qui ont des succursales des deux côtés de la frontière. Et effectivement, la politique syndicale canadienne est basée sur la politique, les lois américaines. C'est le modèle modèle Wagner qui encadre les relations de travail dans les deux pays. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que... Alors, pour commencer les différences, alors évidemment, on commence avec cette différence qui est assez apparente, qu'il y a trois fois plus de travailleurs, enfin un pourcentage, qui sont membres au Canada par rapport aux États-Unis, et puis on doit se poser la question pourquoi. Et là, il y a, enfin, disons, deux catégories de différences. Il y a les différences du côté de la politique de travail, et puis il y a les différences du côté du mouvement syndical lui-même. Alors, pour commencer avec la politique de travail, en général, ça porte au titre de mon livre, The Class Idea, l'idée de classe et ce que l'argument que j'avance dans les livres, c'est que cette idée de classe, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des classes différentes dans la société et qu'ils ont des intérêts différents qui doivent être protégés, c'est encadré dans la loi, disons. Alors ça se voit concrètement, par exemple, dans le fait que les conseils de travail au Canada ont la tendance d'avoir des représentatifs syndicaux, des représentatifs du patronat, des représentatifs de l'État, tandis qu'aux États-Unis, il y a cette idée qu'ils doivent être non-partisans, disons. Et ça fait en sorte que lorsque on essaye de nier l'existence de ces différences de classe, ça fait en sorte que ça reproduit les divisions et ça reproduit le rapport de pouvoir. Et dans un cadre où c'est évidemment le patronat qui a plus de puissance dans cette relation, si on ne prend pas de mesures pour reconnaître cette différence, ça fait en sorte que ça reproduit le pouvoir du patronat. Alors ça, c'est juste un exemple du côté de la politique de travail, mais il y a aussi du côté des mouvements eux-mêmes où on voit des différences importantes. Et là, c'est une conséquence, je dirais, de la façon dans laquelle les mouvements syndicaux ont été, le terme en anglais c'est incorporé, je dirais, à partir des années 1930 et 1940. Alors, c'est la réponse des élites politiques aux mouvements syndicaux des années 30 et 40, alors au milieu de la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Et la grande différence là, c'est qu'au Canada, le mouvement syndical a été incorporé en tant que représentatif de classe, alors c'est-à-dire que le mouvement a été vu et se voyait en tant qu'une représentative d'une classe ouvrière plus élargie, tandis qu'aux États-Unis, le mouvement a été comme catégorisé en tant que special interest, alors intérêt spécial, intérêt... c'est quoi le terme en français pour ça?
Ça marche quand même, l'intérêt
okay. Particulier, peut-être.
Particulier, oui. C'est
comme un lobby.
Mieux comme ça. Oui, un peu comme un lobby, oui. C'est un peu comme ça. Alors, c'était leur association avec le Parti démocrate en tant que lobby à l'intérieur de ce parti-là, tandis que, bien évidemment, au Canada, enfin, pas trop au Québec, évidemment, mais au Canada anglais. C'était incorporé, il y a eu la représentation politique à travers le NPD. Et puis, mais encore plus, ce qui s'est passé, évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'expulsion des communistes, l'expulsion de la gauche, qui s'est passée dans les deux pays, mais de façon très différente, justement à cause du fait qu'il y avait le NPD au Canada. Alors, le fait que on a et effectivement au Canada, c'est le NPD, assez ironiquement, qui a mené la campagne d'expulsion des communistes, ce qui est bien évidemment c'est pas trop sympa, disons, mais l'effet, ça a fait en sorte que aux États-Unis, il y a eu vraiment une coupure entre la gauche politique et le mouvement syndical. Et le mouvement syndical qui s'est produit dans l'après-guerre aux États-Unis, c'était beaucoup plus conservateur et beaucoup plus allié aux forces plus conservateurs dans la société, tandis qu'au Canada, et ça fait en sorte que lorsqu'on vient dans les années 60, on arrive dans les années 60, il y a la nouvelle gauche qui s'est produite, dans le mouvement étudiant et tout ça. Et aux États-Unis, c'est vraiment un mouvement qui s'est produit. Le mouvement syndical est vraiment à part, c'est complètement écarté de ce mouvement. Du nouveau mouvement de la nouvelle gauche. Même on pourrait dire que c'est carrément un ennemi parce que c'est un mouvement qui, à l'époque, était en faveur de la guerre à Vietnam, qui était assez raciste, assez sexiste, tout ça à l'époque. Tandis qu'au Canada, c'était un mouvement. Le mouvement syndical et la nouvelle gauche se sont développés un peu ensemble. Enfin, ils étaient liés. Ils étaient liés de façon organisationnelle. C'était vraiment, il y avait des aspects du mouvement étudiant qui étaient à l'intérieur de l'aile de jeunesse de la NPD. Du NPD, disons. Alors, ça fait en sorte que le mouvement syndicaliste canadien avait une politique plus élargie, une politique plus de gauche, franchement. Et alors, c'était un mouvement qui était lié au mouvement féministe, au mouvement, et bien évidemment au Québec, au mouvement nationaliste. Alors, ça fait en sorte que c'était une politique qui était beaucoup plus sympathique à une analyse de classe, à une analyse de combat de classe. Et ça fait en sorte que lorsqu'on arrive dans les années 70 et 80, où il y a l'offensive du patronat et des gouvernements, l'austérité et tout ça qui commence, le mouvement syndical canadien, par rapport au mouvement syndical américain, il faut le dire, parce que bien évidemment, pour un auditoire canadien, on ne cesse pas de critiquer les faiblesses de notre mouvement. Mais par rapport à ce qui se passe au sud de la frontière aux États-Unis, sont mieux équipés pour faire face à cette offensive, disons. Et c'est pour ça qu'on voit la différence entre les deux mouvements.
Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, parce que là, on parle d'un mouvement qui vient de la Grande Dépression, de la Deuxième Guerre mondiale, on parle des années 60, c'est sûr qu'il y a une continuité dans toute cette évolution-là, mais quand même, on se retrouve tout de même en 2021. Il n'y a pas vraiment d'idée à la base des États-Unis pour former un parti ouvrier comme on pourrait voir en Grande-Bretagne ou ailleurs dans le monde. Il n'y a pas ce concept-là non plus de laisser une place importante à travers le Parti démocrate au syndicalisme. En fait, on voit qu'il y a une ouverture probablement à cause qu'il y a eu une transformation un peu de leur membership là, au Parti démocrate dans les dernières années, puis surtout dans les dernières élections. Mais comment est-ce qu'on peut quand même expliquer qu'il semble avoir cette espèce de conception-là encore aujourd'hui que d'être syndiqué, c'est pas un avantage, alors qu'il y a de plus en plus de populations vulnérables aux États-Unis, qu'il y a de plus en plus d'écart entre les riches et les pauvres, que la classe moyenne est en train est presque inexistante. Comment est-ce qu'on explique qu'il n'y a pas encore eu cette réalisation-là, tu sais?
Oui, mais là, c'est vraiment une conséquence de l'évolution politique aux États-Unis et non des attitudes des Américains, disons, parce que pour commencer, il faut savoir que en même temps qu'il y a un taux de syndicalisation d'environ 10%, lorsqu'on fait l'analyse des sondages, il y a une grande majorité de répondants qui sont en faveur des syndicats. Alors, c'est dans la soixantaine de pourcents. Et ça, il y a une variation à travers le temps, mais c'est presque toujours, je crois qu'il y a un an dans les 80 ans, derniers ans, qu'on pose la question où il n'y a pas eu une majorité absolue des Américains qui sont en faveur des syndicats.
Alors c'est la législation? Grand... C'est la législation qui est problématique?
Là, c'est la législation, mais je dirais qu'il faut comprendre que la législation, c'est en partie une conséquence du rapport de force entre les mouvements, parce que pour revenir à la question des différences entre les États-Unis et le Canada, la politique syndicale au Canada, comme je disais avant, ça a commencé un peu du même point de départ, le modèle Wagner, mais ça a évolué de façon un peu... Enfin, il y a bien de problèmes avec le modèle Wagner, mais c'est plus costaud, disons, au Canada par rapport aux États-Unis, tandis qu'aux États-Unis, c'est vraiment écroulé au fil du temps. Mais les réformes plus pro-syndicales, pour protéger les syndicats, se sont produites au Canada vraiment dans les années suivant les grands mouvements des années 60 et 70. Alors, il y avait comme un soulèvement social à cette époque-là, et puis la réponse, c'était des réformes de la politique de travail. Tandis qu'aux États-Unis, il y a eu ce processus d'écroulement au fil du temps, et on n'a pas eu les réformes qu'on a vues au Canada. Alors, ce n'est pas la différence ne s'explique pas parce que les politiciens canadiens ont créé des lois qui protègent plus, c'est que ils ont su répondre au conflit social à travers les réformes politiques. Donc, mais en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est que aux États-Unis, c'est je ne dirais pas que c'est impossible parce que ça se passe toujours, mais les barrières à la syndicalisation sont tellement hautes que la grande majorité ne réussissent pas. Et on lâche effectivement, et je crois que vous voulez en parler ça, mais on voit ça actuellement dans la campagne de syndicalisation en Alabama avec l'entrepôt de Amazon. Et là, ça s'illustre très bien juste le point auquel les barrières sont tellement difficiles à franchir, puisqu'on donne tellement d'envergure aux patrons de s'opposer et de prononcer leur opposition à la syndicalisation et de mener une campagne vraiment de... carrément de terreur,
de
peur pour intimider les travailleurs. Et c'est justement la politique de travail américaine qui donne le droit, c'est carrément encadré dans la loi qu'on donne au patron le droit.
Période de propagande, là.
Oui, c'est une période de propagande, mais c'est quand même encadré en tant que liberté d'expression. Mmh. Alors, on dit que... Non, c'est vraiment ça. C'est littéralement... Ça s'appelle la liberté d'expression du patron. Ça fait partie de la loi. Alors, on
ça,
dit
ça
que...
Ça touche l'imaginaire, hein? Quand on dit ça comme ça, c'est...
Oui. Non.
Qu'on donne la liberté d'expression à une entité morale, là. C'est même pas une personne. Tu sais, c'est quand même la corporation a le droit de te parler à toi.
Alors, il y a une politique, et ça fait partie de l'évolution de la politique de travail aux États-Unis. C'est la manière dans laquelle l'encadrement de la politique de travail aux États-Unis, ça énonce une série de droits pour les travailleurs. Et puis, ça a laissé place aux employeurs à réclamer leurs droits complémentaires, disons. Tandis qu'au Canada, l'encadrement, c'est vraiment, on veut éviter les conflits. Et on va faire ce qu'il faut faire pour éviter les conflits. Et ça fait en sorte que le grand principe pour des relations de travail, ça fait en sorte que la politique limite ce que peuvent faire les employeurs. La politique essaie de restreindre ce qu'ils peuvent faire. Tandis qu'aux États-Unis, on dit qu'on veut avoir, on veut un équilibre entre les deux parties sans reconnaître le rapport de force carrément inégal entre les deux.
Mais c'est ça que j'allais dire. C'est un excellent exemple de l'absence totale de discours d'analyse des classes, là, parce qu'on calcule que l'employeur, tu sais, dans le fond, pour résumer, l'employeur puis le travailleur sont à force égale face à face. Puis, tandis que c'est oublier complètement le pouvoir puis l'oppression qu'un employeur peut mettre sur un travailleur, ce que nous, en tout cas, pas parfaitement, là, parce qu'effectivement, là, ça va faire du bien à tout le monde, on va se comparer à pire, là, mais c'est vrai qu'on chiale beaucoup contre notre rapport de force au Canada, mais bon, on va se comparer, ouais. On va se consoler, mais, mais c'est ici au Canada, c'est pour protéger le travailleur de l'abus de l'employeur, parce qu'on reconnaît qu'il y a une oppression de l'employeur sur le travailleur. Fait que c'est quand même frappant là, que ce soit de la liberté d'expression, de terroriser les employés qui essayent de syndiquer. Là. Moi, je...
Non, mais c'est carrément ça. C'est la loi, on appelle ça la politique, la liberté de l'expression de l'employeur.
Liberté d'expression. On a... oui, Samy?
Ben, j'allais dire, mais dans un contexte comme ça, c'est un peu... Où est l'espoir pour les Américains qui désirent se syndiquer, disons? C'est parce que là, on en parle, puis la place est laissée au gouvernement puis aux employeurs. Le petit Américain moyen ou la petite Américaine moyenne sont laissés à eux-mêmes. C'est quoi l'espoir derrière ça? Est-ce qu'il y a des changements qui s'en viennent? Est-ce que la gouvernance de Biden va amener ces changements-là?
Il y a de l'espoir. Alors, vous avez parlé il y a quelques minutes à propos des changements au niveau politique aux États-Unis et il faut mentionner ici surtout les campagnes à la présidentielle de Bernie Sanders et la manière dans laquelle ces campagnes ont vraiment élargi l'espace politique qui existe pour une politique de classe plus élargie, plus énoncée. Aux États-Unis et par conséquent, on voit pour la première fois dans plusieurs décennies un mouvement socialiste aux États-Unis par rapport à la population, c'est minuscule, mais par rapport à ce qui a existé, c'est un mouvement, comme j'ai dit, qu'on n'a pas vu depuis les années 60, au minimum. Peut-être depuis les années, depuis les années 40. Et c'est directement lié à cette campagne de Sanders. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a... je parle surtout de DSA, Democratic Socialists of America, qui dépasse maintenant... 90 000 membres. Et là, par comparaison à l'époque, je crois que le Parti communiste aux États-Unis a son plus grand, je crois que ça dépassait, c'était aux environs 80 ou 100 000 membres. Bien évidemment, la population était beaucoup plus petite à l'époque, mais quand même. Alors, on peut parler, on commence à pouvoir parler d'un mouvement au niveau de masse, disons, de gauche. Alors, une vraie gauche aux États-Unis qui ne s'est pas produite depuis les années 1930. Il y a ça qu'on peut voir comme espoir, mais... Et aussi, on a eu du recul à cause de la COVID, mais avant la COVID, on voyait le retour des grèves c'est carrément disparu aux États-Unis, mais en 2018, on a eu les mouvements des enseignants et des enseignantes, évidemment, surtout dans les lieux, dans des États assez conservateurs, la Virginie de l'Ouest, l'Arizona, l'Oklahoma, le Kentucky un peu. C'est un peu plus à l'horaire, disons, cette idée de la lutte de classe et de la mobilisation sociale pour des réclamations plus progressistes. Et je dirais que maintenant, avec la campagne à Amazon, je dirais que s'ils arrivent à franchir la frontière, franchir la barrière, ils arrivent à se syndiquer, on saura dans quelques semaines là. Il faut se méfier un peu mais des prédictions, mais je dirais que ce serait vraiment une percée, disons, et on pourrait voir quelque chose qui pourrait voir peut-être la relève.
Parlons-en de Amazon, justement. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu les gens en contexte pour expliquer ce qui se passe en ce moment? Parce que j'imagine que ce n'est pas tout le monde qui est au courant de ce qui se passe chez Amazon aux États-Unis. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit portrait de la situation?
Oui, OK, bon. Alors évidemment, Amazon est le deuxième employeur le plus important aux États-Unis dans le secteur privé après Walmart. J'oublie le nombre exact, mais ça dépasse les millions d'employés. Il n'y a aucun lieu de travail, aucun entrepôt d'Amazon qui est syndiqué aux États-Unis. Et on a essayé quelques fois, mais ça a toujours été un échec complet. Alors maintenant, il y a un entrepôt qui se trouve dans la ville de Bessemer, en Alabama. C'est dans la banlieue de Birmingham. Et c'est un entrepôt assez neuf. Ça vient d'être établi l'an dernier. Alors évidemment, Amazon continue à croître son entreprise à cause de la COVID. Alors, ils construisent ces entrepôts. Et les travailleurs, là, ont très vite commencé à se plaindre et leur réponse était d'essayer de se syndiquer. Alors, l'initiative est venue des travailleurs eux-mêmes. Ils ont contacté un syndicat qui s'appelle en anglais Retail Wholesale Warehouse Distribution Retail Wholesale Department Store. Oui. Alors, c'est les travailleurs de détail, d'entrepôt et de grands magasins. Ils ont commencé une campagne de syndicalisation là. Ce qui est très intéressant, et c'est vraiment la première grande campagne de syndicalisation, parce qu'auparavant, c'était vraiment des petites unités de quelques dizaines de travailleurs. Et là, ça, c'est vraiment l'entrepôt entier qu'on essaie de syndiquer. Ce qui s'est passé, c'est que le nombre de travailleurs, c'est environ 1800 qu'on pensait, mais lorsque Amazon s'est rendu compte de la campagne, ils ont réussi à convaincre le conseil d'élargir le numéro jusqu'à 5800 parce qu'ils ont inclus tous les travailleurs temporaires.
Un grand classique.
Oui. Alors ils ont réussi à inclure tous les travailleurs temporaires dans le classement des travailleurs. Alors, ce qui est assez formidable, c'est que le syndicat a réussi à franchir le cas, disons. Alors, ils ont réussi à obtenir le nombre suffisant d'adhésions pour déclencher l'élection. Et ensuite, par la suite, Amazon a essayé, même au milieu d'une pandémie, d'avoir une élection en personne. Ils ont offert carrément de construire un hôtel pour loger les fonctionnaires du gouvernement afin d'avoir une élection en personne, mais le conseil a refusé leur offre généreuse de les héberger en Alabama, et ils ont dit qu'il fallait faire l'élection par la poste, et les scrutins sont actuellement en train d'être distribués, et on saura les résultats à la fin du mois.
Je m'excuse, je voulais juste savoir si on avait une date, mais c'est bon, à la fin du mois.
Oui, ça, j'oublie la date exacte, mais c'est la 20 et quelque chose. Mars aurait dû consulter avant. Mais entre-temps, ce qu'on voit, c'est vraiment la campagne de terreur complète. Alors, on met des pancartes dans la salle de bain. Tout partout, on a le site web, Alors, ces gens-là, les travailleurs à Amazon, ils ont de la difficulté même à prendre des pauses pour aller aux toilettes parce qu'ils doivent retourner au travail et prendre leur repas. Ils ont comme une vingtaine de minutes pour traverser l'entrepôt pour prendre leur repas et pour retourner. Par contre, Amazon n'hésite pas de les retirer du travail pendant quelques heures pour les éduquer à propos des dangers du syndicalisme.
Walmart faisait ça aussi. Oui, Walmart était très connu pour faire des tactiques comme ça.
Il n'y a rien de spécial.
Il y a une histoire avec Couche-Tard aussi qui avait essayé de faire ça à une certaine époque, puis ça avait été rabroué assez... ici, c'est inconcevable faire ça en toute impunité, là.
Impunité, peut-être, mais inconcevable, pas sûr. Dans le monde privé, les employeurs le font de façon assez régulière. Des fois, ils se font taper sur les
doigts. Mais c'est beaucoup plus limité au Canada par rapport aux États-Unis, justement parce qu'il n'y a pas cette liberté d'expression patronale.
Non, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas la liberté d'expression patronale. Par contre, si on veut faire une plainte pour ingérence dans un dossier, qu'on veut déposer une plainte en 12, bien, ça bloque l'accréditation, donc ça ralentit le processus, ça donne le temps à l'employeur de faire de la propagande. Donc, finalement, tu ne veux pas faire ta plainte d'ingérence. Ça fait qu'il y a un jeu qui n'est pas direct, mais qui est indirect et qui est défavorable aux travailleurs. Mais moi, j'ai une question par rapport à justement tout le cas d'Amazon. Ce qui m'intrigue le plus, c'est c'est pas nouveau. On a vu plein d'employeurs aux États-Unis faire ça. Les tactiques sont les mêmes. Oui, c'est un gros groupe, mais pourquoi est-ce que ce groupe-là est spécial par rapport à d'autres? Pourquoi est-ce qu'il est spécial au point d'avoir des vedettes qui vont faire le piquet de grève avec eux autres, des joueurs de la NFL qui viennent faire des messages de support, le président des États-Unis qui vient faire un message en support aux travailleurs? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Est-ce que c'est juste un calcul politique? Ils ont juste fait comme, on pense que c'est notre électorat, donc on va les appuyer? Pourquoi est-ce qu'il y a un gros support?
Je dirais qu'il y a plusieurs explications, là. Alors, d'abord, c'est évidemment le fait que c'est Amazon. C'est vraiment une de ces entreprises les plus grandes entreprises aux États-Unis et surtout maintenant à l'époque de la pandémie qui est devenue même plus important. C'est comme une société vedette, disons. Et le fait que ça n'a jamais réussi, il n'y a aucune campagne de syndicalisation qui a réussi jusqu'à date. Alors, c'est vraiment un des plus grandes sociétés. L'expression me manque, mais c'est comme chef de file, disons. Alors c'est vraiment le symbolisme est là. Et en plus de ça, le fait que le mouvement se produit en Alabama, qui a vraiment des connotations avec le mouvement des droits civils des années 60 et ça. Et je crois que c'est lié au mouvement de Black Lives Matter aussi. Alors, il y a vraiment comme, c'est comme c'est des échos, disons. Alors, le fait que Black Lives Matter vraiment met à l'agenda la justice raciale et le syndicat, puisque les travailleurs dans l'entrepôt sont surtout des travailleurs et travailleuses racisées. C'est surtout des Afro-Américains. Alors, ils peuvent vraiment faire le lien entre le mouvement syndical et le mouvement de justice raciale. Alors, c'est vraiment, dans ce sens-là, c'est vraiment le moment pour ça. On voit comme une résonance quoi, qui se produit. Alors, ce n'est pas des choses qu'on peut prédire à l'avance, évidemment, mais je crois que c'est pour ça qu'on peut, qu'on voit le montant à laquelle, le degré à laquelle on voit tellement d'attention qui...
C'est comme si c'était les poster girls and poster boys pour la lutte des classes. Là, c'est le jackpot combiné de la précarité des travailleurs, le mouvement racisé, la pauvreté économique, tout ça mélangé ensemble.
Ouais.
Ça donne ça ce cocktail explosif de droits et de justice. C'est
l'intersection de
avec
de
le méchant. Le casting du méchant parfait, là, tu sais, le Amazon, oui, là, pas
en plus,
main,
avec
là.
Un petit sourire sur sa boîte, là, tu peux pas être plus ironique que ça, là. Mais est-ce que l'espoir du renouveau syndical aux États-Unis n'est pas directement relié à ça, au mouvement ouvrier, au mouvement syndical qui va aller rejoindre les causes de justice sociale, donc qui va renouer avec le communautaire, justement?
Une chose qu'on
discute
ça.
Régulièrement ici aussi, là.
Non, effectivement, oui, c'est ça. Et ça revient à ce que je disais auparavant à propos des différences entre les États-Unis et le Canada et le degré à laquelle les mouvements ont pu s'allier aux autres mouvements sociaux. Et je dirais qu'aux États-Unis, dans les décennies plus récentes, il y a eu des efforts, des tentatives de reconstruire, de construire de telles alliances avec plus ou moins de succès. Mais si on regarde, si on voit comme les succès du mouvement syndical aux États-Unis dans les dernières années, c'est des mouvements qui ont réussi à établir de telles alliances. Je pense surtout aux grèves d'enseignants et d'enseignantes à Chicago, à Los Angeles, en Arizona, en Oklahoma, en Virginie de l'Ouest. C'est vraiment des mouvements qui ont su se poser comme le champion non seulement des enseignants, mais de l'éducation publique et de poser ça comme étant un dossier de question de justice raciale. Et vraiment de lier ça à un message de lutte de classe et contre l'austérité. Alors, c'est un message beaucoup plus élargi qui réussit à... c'est un message beaucoup plus élargi qui réussit à rassembler beaucoup de monde derrière un mouvement qui dépasse vraiment le mouvement syndical lui-même.
Parce que c'est ça que c'est intéressant parce que c'est exactement ça que j'avais comme prochaine question. Parce que c'est beau que le mouvement, la mobilisation citoyenne se réapproprie le discours de lutte des classes, puis ils font passer ça par la cause syndicale. Mais au début, si j'ai bien compris, là, dans les différences importantes qu'il y a entre le Canada puis les États-Unis, une des différences, c'est que le syndicalisme est comme les mouvements, les représentants syndicaux sont comme un peu indépendants, c'est comme du lobbyisme, donc il y a quelque chose de détaché. Donc, la prochaine étape, après avoir remobilisé les travailleurs, ça va être de se réapproprier, j'imagine, le mouvement syndical en soi puis la structure, parce que Parce que j'imagine que la job n'est pas finie. Là. Si la structure est basée sur le même modèle que du lobbyisme pour les armes à feu les fermiers, là, à un moment donné.
Exactement. Et ce n'est pas une coïncidence que dans chacun des exemples que je viens de mentionner avec les grèves des enseignants et des enseignantes, dans les cas des syndicats à Los Angeles et à Chicago, les grèves sont suite à un mouvement à l'intérieur du syndicat pour réformer le syndicat. Alors, il y a un mouvement qui s'est produit dans ces syndicats pour remplacer le leadership avec un leadership plus militant et qui savait comment rassembler le monde et qui avait une vision plus élargie du rôle du syndicat, tandis que dans les mouvements, dans les États rouges, comment on les appelle, ce sont des mouvements qui se sont développés, disons, en conversation avec, mais indépendamment du leadership syndical. Alors, c'est vraiment des mouvements plus organiques qui se sont produits de la se sont produits de la base et c'est vraiment ça que et on peut vraiment voir ça comme quelque chose de positif et il faudra trouver moyen de reproduire ça à une échelle plus grande pour rénover le syndicalisme aux États-Unis.
Samy, tu voulais de l'optimisme là, puis de l'espoir. Moi, je trouve qu'il y a plein d'optimisme, il y a plein d'espoir là-dedans.
Il y a plein d'espoir là-dedans.
Plein de licornes.
Oui, puis tu sais, là, on parle des difficultés reliées à la syndicalisation elle-même, sauf qu'aux États-Unis, on le sait, une fois que tu es syndiqué, le travail est loin d'être fini. Parce que faire reconnaître ton contrat de travail, puis ensuite aller chercher des cotisations syndicales, je veux dire, justement, peut-être que tu pourrais nous parler un peu du right to work, puis des difficultés que ça amène par rapport à ce que nous, on connaît ici.
Oui, alors, je dirais que le problème n'est pas vraiment sur le plan légal, c'est-à-dire que les lois comme right to work, ce qui n'oblige pas les gens à cotiser le syndicat même s'ils sont représentés par le syndicat. Alors, ils peuvent obtenir les bénéfices des conventions collectives sans devoir payer pour les services. En fin de compte, ce qu'on voit avec les recherches, c'est que en soi, disons, juste si on regarde l'effet des lois de right to work, on peut pas observer trop d'effets au niveau des taux de syndicalisation. Mais vraiment, on peut comprendre ces lois en tant que c'est vraiment un symbole d'un processus de déclin qui s'est déjà produit. Alors, on voit l'affaiblissement du mouvement syndical et puis, à un moment, on passe la loi et qui démontre que le mouvement s'est effondré. Alors, parce que dans les lieux de travail qui sont syndiqués, même s'il y a des lois comme ça, je dirais que en grande majorité, ceux qui sont dans ces lieux de travail savent qu'il faut contribuer. Alors, en l'absence d'autres lois, alors par exemple au Wisconsin, il y a non seulement comme right to work, mais c'est lié à d'autres lois aussi qui rétrécissent le pouvoir syndical. Alors on ne peut pas négocier à propos de quoi que ce soit à part les salaires, et même là, les salaires, on ne peut pas négocier une hausse salaire qui dépasse le taux d'inflation.
Il faut déménager et puis il faut
Non. Les syndicats dans le secteur public au Wisconsin sont obligés de se recertifier à chaque année.
Ils doivent,
alors dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est à la suite de la loi qui a été passée il y a 10 ans maintenant, le taux de circulation au Wisconsin a chuté de la moitié et maintenant c'est comparable à ce qu'on voit en Alabama. Oui. Alors c'était vraiment un des États qui avait un taux de circulation assez haut quand même. Et maintenant, c'est comparable aux États dans le sud des États-Unis où les syndicats sont parmi les plus faibles. Mais ça, c'est une série de lois. Ce n'est pas seulement right to work. Mais si on voit l'effet seulement des lois de right to work, c'est vraiment, c'est un peu, enfin, on peut poser la question de l'effet. Ce n'est pas assez clair.
C'est du bon branding, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des vrais dommages tant que ça dans le...
Ça doit dépendre des milieux.
Mais ce que je voulais dire, c'est que même, alors, comme on le dit, il y a une grande différence entre être syndiqué et être organisé. Donc, vous savez très bien ce que même dans le mouvement syndical, parmi les millions de travailleurs qui sont syndiqués, il y en a plein qui ne font pas partie d'un mouvement syndical réel. Alors, le travail qu'il y a à faire, c'est vraiment de créer ce mouvement syndical, même parmi les syndiqués.
C'est définitivement mon prochain tatouage. Mon prochain tatouage, c'est il y a une différence entre être syndiqué et être organisé.
Ouais.
Un prochain t-shirt.
Alors peut-être que vous connaissez l'organisation Labor Notes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Mais leur slogan, c'est « Putting the movement back in the labor movement ». Alors, je ne sais pas comment le traduire, mais on remet le mouvement dans le mouvement syndical. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Et on peut bien dire que c'est le même problème au Canada qu'aux États-Unis, parce que bien que par rapport aux États-Unis, la situation est meilleure, il y a beaucoup de quoi se plaindre et il y a beaucoup à améliorer. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire, parce qu'on pourrait dire que les différences entre les deux pays sont à cause des différences qui se sont produites dans les années 60 et 70, mais là, c'est vraiment, il y a 50 ans qui se sont passés et on pourrait dire qu'il y a un peu de convergence entre les deux mouvements. On commence à voir ça.
Dans le milieu privé, on le ressent beaucoup.
Effectivement, oui. Oui.
C'est vraiment intéressant comme discussion. C'est sûr que l'heure avance. Je ne sais pas si, en conclusion, déjà, on en aurait pris encore pour des heures. Là. On aurait pris un cours avec toi, Barry, je pense. En conclusion, est-ce que Sammy ou William, vous aviez une dernière petite question pour Barry?
Dernière question. Écoute, je pense qu'autant Eliane que moi, on en aurait des centaines. Là. On pourrait, en effet... Parler. Eliane, est-ce que tu avais déjà quelque chose en tête?
Mais on peut reprendre la discussion après que les résultats
de l'élection. Absolument. Oui, avoir un update.
À Amazon sont connus.
Ouais. Ce serait exceptionnel.
Une chose que je voulais dire à propos de la campagne à Amazon que je n'ai pas dit auparavant, c'est que ce qui est assez intéressant là, c'est non seulement la manière dans laquelle ça attire de l'attention de tout partout, mais ce que fait le syndicat lui-même, c'est parce que ce syndicat en particulier, il représente les travailleurs d'abattoirs de volailles dans le quartier, alors aux alentours de Bessemer. Et ça fait en sorte que le syndicat recrute ces travailleurs qui sont syndiqués pour aller parler à leur... peut-être futur camarade syndical Alors, c'est eux qui s'installent à l'entrepôt à 5 heures du matin et puis arrêtent les voitures pour leur en parler du syndicat et de leur encourager. Alors, c'est assez inspirant. Et face à ça, ce qu'a fait Amazon, c'est ils ont convaincu la ville de Bessemer de changer l'intervalle à laquelle les feux de circulation changent pour qu'ils n'aient pas assez de temps pour en parler aux travailleurs.
Mais tu sais, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a vraiment aucune ligne de moralité whatsoever. Ouais. C'est comme le niveau d'indécence auquel Jeff Bezos et ses acolytes sont prêts à aller est vraiment sans limite, mais c'est surtout pas unique. C'est ça qu'il faut se rappeler, je pense, c'est que Amazon, c'est un grand mal dans ce contexte-là, mais c'est pas le seul. Il y a
c'est
comme un cancer dans le monde
du travail.
C'est représentatif
d'une plus grande tendance à travers le pays. Oui. Alors s'ils réussissent à franchir le cas et on voit une victoire, ce serait vraiment, je crois qu'il y aura des répercussions beaucoup plus grandes et on pourra en parler après qu'on connaît les résultats.
À ce moment-là, on le fait en mode 5 à 7 là, avec un petit verre de vino en plus pour célébrer.
Ouais. Avec des bulles.
Avec des bulles.
Ben, c'est un rendez-vous donc pour une prochaine fois parce qu'on va être super optimiste. Puis on va souhaiter que ça se produise. Barry, merci tellement d'avoir pris le temps aujourd'hui pour nous jaser. C'était, comme j'ai dit tantôt, super intéressant. On a appris plein de choses. J'espère que vous avez appris autant que nous à la maison. Donc, soyez là pour le prochain rendez-vous avec Barry. C'est un rendez-vous, là, officiellement.
OK.
Merci.
Ça fait plaisir. Énormément.
Merci.
La 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 la.